Radio Okapi.
À la une de cette session d'actualité, 14 morts et une trentaine de blessés, c'est le bilan provisoire des explosions des bombes enregistrées vendredi dans les sites des déplacés près des Goma. Le gouverneur de province du Nord Kivu qui donne ces chiffres déplore cette attaque qu'il qualifie de crime de guerre. La Cour d'appel du Congo central prend en délibéré la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province à son audience publique de ce samedi 4 mai à Matadi. Après débat des parties au procès, la Cour promet de prononcer son verdict le 7 mai prochain. L'invité de ce journal est Marie-Félicité Nobabo Mutana, enseignante de l'école primaire depuis plus de 50 ans à Bunia, en Ituri. Âgée de 73 ans, elle livre son analyse sur la carrière d'enseignant et propose des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des professionnels de la CRE, dont nombreux, à l'instar d'elle, ont atteint l'âge de la retraite. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu où 14 morts et 35 blessés, c'est le bilan provisoire des explosions des bombes enregistrées vendredi dans les sites des déplacés près de Goma. Dans une déclaration ce samedi dans la soirée à Goma, le gouverneur de province, le général-major Peter Sirimwami, dresse ses bilans provisoires et qualifie cette attaque de crime de guerre. L'autorité provinciale appelle la population à la résilience et la résistance face à ces actes de terrorisme ainsi que la guerre d'agression. Le général-major Peter Sirimwami, dans cet extrait choisi par Sifa Maguru.
C'est déplorable. C'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocente. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de combattre ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence.
Nord Kivu toujours, l'Assemblée provinciale, la coordination provinciale et celle des territoires de la société civile, les organisations féminines haussent les tons à leur tour pour condamner les bombardements enregistrés vendredi dans les sites des déplacés à Mugunga et au Lac Vert. La société civile qualifie de coupables les silences du gouvernement congolais face à cette guerre. Pendant ces temps, les élus provinciaux se disent profondément préoccupés par le massacre des populations à Beni par les ADF. La guerre du M23 et l'insécurité généralisée en ville de Goma et les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Les condensés de leur déclaration rendue publique ce samedi à Goma par Sifa Maguru.
Ces structures de la société civile accusent d'une part le gouvernement congolais d'adopter une position ambiguë face à la souffrance de la population. Les forces vives désapprouvent également les tactiques militaires sur terrain caractérisées par les cessez-le-feu et les replis stratégiques que manifeste l'armée face à la progression de l'ennemi. La société civile note notamment la situation du 1er au 9 mars où les rebelles ont réussi à conquérir les grandes agglomérations comme Nyanzale et Kibiri, ainsi que la position stratégique des Rwindi sous les regards impuissants des militaires. Pour la société civile, ces agissements donnent un chèque à blanc à l'ennemi pour opérer impunément et exposer les populations à des crimes graves. La chute de Rubaya et Ngungu du 1er au 2 mai, ainsi que l'explosion des bombes dans les sites des déplacés, sont également repris dans la déclaration de la société civile. D'autre part, dans une déclaration signée par 26 organisations locales, les femmes du Nord Kivu demandent également la délocalisation des positions des FARDC qui sont aux alentours des camps de déplacés. Enfin, les élus provinciaux recommandent également aux FARDC de redoubler d'efforts pour récupérer les zones occupées et protéger celles qui sont encore sous son contrôle. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Autre réaction concernant ces bombardements dans les camps de déplacés de Goma, réunis en urgence ce samedi, les députés nationaux du Nord Kivu condamnent ce qu'ils qualifient des bombardements cruels et lâches qui ont visé les populations civiles sans défense. Ils recommandent par cette même occasion au gouvernement de la République démocratique du Congo de renforcer la sécurité autour et dans les camps de ces déplacés. Ils exigent également du gouvernement la mobilisation de la communauté internationale pour condamner les agressions. Les propos du député national Elie Vaoumawa, j'y arrive. Les rapporteurs sont choisis ici par André Kitenge.
Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps des déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans ambages et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais.
Restons au Nord Kivu, mais cette fois-ci sur la ligne des fronts. La population se déplace en masse depuis hier samedi matin dans la région de Gungu, Rubaya, Kabalekasha et Bitonga en groupement Mufuni-Shanga et Kibabi dans les territoires de Masisi. Ce après des violents combats qui opposent le FRDC et les Wazalendo aux rebelles du M23 depuis vendredi dans cette région des collines surplombant Sake, Bweremena et la cité de Minova. Des sources concordantes locales affirment que les rebelles du M23 occupent depuis ce samedi dans la matinée la localité de Bitonga. Cela expose la cité de Minova à la limite entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. À l'avancée des rebelles, s'inquiètent les acteurs locaux. Plus de détails avec Pascal Massirika.
D'après les médias locaux de Minova, les populations se déplacent par centaines de ménages, les uns en moto, taxi, avec des matelas et des effets ménagers, d'autres à pied. Ces habitants ont pris la direction des localités de Kalungu, Mukwija, Nyamasasa, Nyabibwe et Kalehe au sud Kivu, alors que d'autres sont allés vers Nzulo au bord du lac Kivu au nord Kivu, faute de places suffisantes dans les familles d'accueil à Minova, territoire de Kalehe au sud Kivu. Des détonations d'armes lourdes retentissent chaque jour dans la région et créent du coup la psychose jusqu'à Minova. Nos sources affirment qu'une unité du contingent burundais qui était basée à Bitonga s'est déjà retirée pour se replier à Minova.
Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, les conflits intercommunautaires Mbole-Lengola continuent à endeuiller plusieurs familles dans la commune urbano-rurale de Lubunga. Au moins 6 personnes ont été assassinées par des assaillants au cours de ces 3 derniers jours. Excédées par ces conflits sanglants, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani dénoncent avec véhémence cette situation. Elles l'ont fait savoir dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État hier samedi. Elles ont rencontré l'évêque auxiliaire de Kisangani, Mgr Léonard Ndjadi Ndjate, pour solliciter son accompagnement. Les condensés de cette lettre avec vous, Jacques Moukonkole.
Dans leur lettre au chef de l'État, les femmes de la Tchopo réunies en séminaire sur le leadership féminin, la gestion et résolution pacifique des conflits dans la ville de Kisangani, indiquent que le mode opératoire des assaillants est non seulement haineux, mais aussi qu'il n'est pas habituel dans cette province. Ce conflit date depuis une année et a provoqué des déplacements massifs des populations. Au moins 18 000 personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps de déplacés à Kisangani. D'autres sont sont signalés dans des familles d'accueil et au moins 500 personnes ont perdu la vie. Les femmes de la Tchopo accusent le ministre de l'Intérieur de ne pas informer objectivement ni les conseils des ministres, ni encore moins le président de la République. Elles recourent directement au chef de l'État en sa qualité de garant de la nation pour que ces fléaux soient éradiqués. Ainsi, elles lui demandent de suspendre les activités de Cap Congo, de diligenter une enquête sur les commanditaires de ces conflits et d'interpeller ceux qui en sont cités. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
La Cour d'appel du Congo central a statué sur la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province à son audience publique de ce samedi 4 mai à Matadi. L'auteur de la requête, le gouverneur sortant Guy Bandou du regroupement politique Action des Alliés AAUNC, conteste les résultats publiés par la CENI le 29 avril, proclamant Grace Bilolo provisoirement élu gouverneur de cette province. L'affaire est prise en délibéré. Reportage de Nana Pluriche Mambou.
Pour les requérants Guy Bandou, la cour d'appel saisie au lendemain du scrutin doit simplement annuler les votes pour irrégularité et fraude présumée. Les requérants se fondent sur une vidéo devenue virale montrant la passation de l'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. Quant au ministère public, il requiert l'annulation de ces votes par le fait que les grands électeurs se sont fait assister par les agents électoraux pendant l'opération des votes. En revanche, les avocats de la CENI réfutent cette affirmation. D'après eux, les techniciens de cet organe électoral n'assistent pas les grands électeurs contre leur volonté, mais plutôt à leur demande. Signalons que c'est en présence de plusieurs sympathisants des deux partis que la Cour met ainsi fin au débat et promet de prononcer son verdict le 7 mai prochain. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Sankuru, le frétin est actuellement l'aliment le plus consommé dans la ville de Lusambo pendant cette période. Les frétins sont des petits poissons qu'on attrape dans la rivière Lusambo. Les pêcheurs se réjouissent de faire des bonnes affaires à cause de l'abondance de ces frétins. Plusieurs femmes estiment que ces petits poissons ont stabilisé les budgets de leur ménage. Esther Ndalafina pour les reportages.
Sur le marché de Lusambo, le frétin est l'aliment le plus remarquable parce qu'il est étalé dans plusieurs coins. Imelda Bitota ainsi que d'autres femmes ménagères apprécient l'abondance des frétins sur le marché car ils sont à la portée de toutes les bourses.
Les frétins ici, ça nous aide avec les enfants. Comme il y a des gros poissons là, on n'a pas les moyens d'acheter. Nous mettons ça dans les pondous, dans les amarats, dans tous les légumes. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Nous sommes vraiment très contents et ça coûte moins cher.
François Ipalo, pêcheur de poissons se réjouit parce qu'il manipule facilement l'argent ces jours après son activité.
Ces derniers jours, nous sommes bien. Nous pêchons beaucoup de poissons, surtout les frétins. Nous payons facilement les frais scolaires de nos enfants et les habits. Les enfants ont maintenant une bonne santé.
Martine Ngoy, revendeuse de frétins, affirme qu'à travers son activité, elle parvient à prendre en charge sa famille.
Oui, ces derniers temps, il y a abondance de frétins. Nous obtenons des bénéfices qui nous permettent de prendre en charge nos enfants.
Signalons que, à part les poissons frais de la rivière, Lusambo est aussi un grenier agricole. Esther Ndalafina Boujimaï, Radio Okapi.
À Nitouri, l'usine de production et de traitement de l'or de la société minière de Kilomoto Sokimo est opérationnelle depuis vendredi à Nizi, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. C'est grâce à l'acquisition de nouveaux équipements et engins réceptionnés par les directeurs généraux de cette entreprise. Selon l'équipe syndicale, ce projet inauguré jeudi dernier permet de relancer les activités de la Sokimo après plusieurs années de léthargie et de créer l'emploi aux jeunes à risque dans cette province secouée par la guerre depuis 2017. Isaac Remoyope.
La Sokimo a acquis de nouveaux engins de production de minerais et des équipements pour l'usine moderne de traitement de l'or ainsi que les laboratoires chimiques. Certains bâtiments pour ces projets qui étaient déjà vétustes ont été également réhabilités par les fonds propres de l'entreprise, a déclaré le directeur général de la Sokimo. Il annonce la production des premiers lingots d'or dans quelques mois et sollicite l'appui du gouvernement central. Pistis Tokole Bonongo.
C'est un grand jour pour la Sokimo car Ça fait 3 décennies, depuis les années 90, que la Sokimo ait ses propres engins. Pour la production d'un premier lingot d'or, nous l'attendons dans quelques jours qui arrivent. L'attente de la Sokimo pour ce nouveau gouvernement, c'est de mettre sur la table notre projet de plan de relance.
Le syndicat des travailleurs de la Sokimo salue cette action du nouveau comité de gestion de cette entreprise qui permet la relance des activités, mais aussi de résorber le chômage des jeunes à risque dans cette province en guerre. Kasongolo Rima.
C'est grâce à la relance, c'est grâce à la production de l'or à Nizi que même l'État congolais va donner l'emploi à la jeunesse à travers la Sokimo.
Signalons que les agents de cette entreprise acquisent plusieurs mois d'arriéré des salaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le parti du président togolais Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de lundi 29 avril, a annoncé la commission électorale togolaise samedi 4 mai au soir. Cette victoire pourrait permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants. En Tunisie, après une semaine de démantèlement des camps de fortune installés par des migrants dans les oliveraies de la région des Sfax, les autorités tunisiennes ont également procédé à l'évacuation des campements à Tunis, l'un dans un parc du quartier d'affaires du lac, l'autre devant les sièges de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette large campagne sécuritaire serait en partie justifiée par les mécontentements des riverains qui ne veulent pas cohabiter avec des migrants.
L'invité.
Notre invitée est Madame Marie-Félicité Nobabo-Moutana, enseignante de l'école primaire depuis 52 ans, un métier qu'elle a embrassé à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, âgée de 73 ans, elle livre son analyse sur la carrière d'enseignant et de ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie des professionnels de la CRE, dont nombreux, à l'instar d'elle, ont atteint l'âge de la retraite. Cet entretien a été réalisé à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement, célébrée les 30 avril. Marie-Félicité Nobabo s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Marie-Félicité Nobabo-Moutana, connue sous le nom de maman Félie. Bonjour.
Bonjour.
C'est la journée dédiée à l'enseignement. Pour vous, une telle journée devait avoir quel sens pour vous qui êtes enseignant depuis 52 ans? Quel sens devait revêtir une telle journée pour vous qui avez servi la nation?
Vraiment, notre État ne nous reconnaît pas. Sinon, ça allait être vraiment bien. On fait l'évaluation de toute l'année qu'on a déjà passée. De voir comment nous évoluons. Ce que les experts nous ont appris ou bien quoi. Maintenant, ajouter la situation, tout comme ça. Est-ce que ça a des rapports? On devait faire des rapports vraiment bien pour ça. Malheureusement, notre État ne permet pas ça.
Mais sinon, à l'époque, là, dans les années, je sais pas combien, 60 ou 90, comment s'est fêtée une telle journée du 30 avril?
Il y avait les défilés qu'on faisait avec les élèves et il y avait des messages qu'on devait donner aux élèves et aux enseignants. Et après cela, les enseignants se raconteraient. Une fois, on avait fait raconter tous les enseignants de la ville de Bougne ensemble. Mais actuellement, c'est presque possible parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont créées. C'est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais les enseignants doivent se rencontrer tout de même.
Ma Félie, comment vous sentez-vous après 52 ans de service rendu à la nation? J'imagine que vous avez enseigné autant d'enfants, autant d'élèves, peut-être aujourd'hui qui sont des cadres à travers ces pays. Comment vous sentez-vous?
Moi, je me sens bien parce que d'abord, mes propres enfants sont devenus des cadres. Les gens que j'ai enseignés depuis que j'ai commencé sont devenus des cadres. Mais maintenant, j'accueille seulement les autres.
Est-ce que vous vous souvenez de certains de vos élèves qui sont devenus des cadres,
oui,
à part vos enfants?
Oui, présentement, pour le moment ici, il y a le préfet, Sœur Suzanne, Vera Sœur Suzanne, qui est le préfet de lycée Tchem-Tchem. C'est mon élève de 4e. Ouais, il y en a d'autres aussi qui sont des médecins. Il y a d'autres qui sont des chauffeurs, mais je ne sais pas quoi là. Mais pour le moment ici, il y a Sœur Suzanne, préfet du lycée Tchem-Tchem.
Je disais, 52 ans après avoir servi la nation, comment vous sentez? Épuisé, fatigué.
Moi, je suis complètement épuisé et fatigué. Notre État ne reconnaît pas ce que les enseignants font. Beaucoup sont morts comme ça, là, des retraités. On les retraite, on dit que nous sommes des retraitables, mais on ne nous retraite pas. Ils sont beaucoup, nous sommes fatigués. Il fallait que les jeunes là qui ont terminé viennent nous remplacer. Maintenant, nous, les vieilles, nous restons là-bas pour empêcher les enfants de venir travailler. Sauf pour nous retraiter pour laisser ces jeunes-là de prendre les choses à main. On devait leur donner des conseils seulement comment ils doivent se prendre. Mais maintenant, même les jeunes qui arrivent, oh, il y a trop de travail, il fait 2-3 ans. Ils laissent l'enseignement parce que 100 $, qu'est-ce qu'il va faire avec 100 $? Que tu sois l'acier ou quoi, nous avons 100 $, 110, 120. Quand on compare avec ces ministres-là qui ont passé par l'enseignement, qu'est-ce qui passe de nous qui leur ont donné quelque chose? Ces ministres-là, qu'est-ce qui passe de nous, de leur budget-là? Les gens sont là. C'est parce que nous, les enfants des pauvres, nous restons toujours pauvres là-bas et nous, heureusement, nous restons avec les paix que nous avons pour faire étudier nos enfants aussi. Et seulement ça.
Madame Félix, je pense quand même qu'il y a aussi des côtés positifs. Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir aussi? C'est vrai que vous déplorez l'enseignement aujourd'hui, mais je pense qu'il y a 10, 20, 30 ans en arrière, quand même, un enseignant, une enseignante, quand même, c'était une fierté dans les quartiers. Quand même. On vous respectait, non? Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir de ce métier de l'enseignement?
Les respects sont toujours là. Madame Félix, maîtresse Félix, mais il faut que vous soyez vraiment pour s'organiser, c'est ça. Parce que même pour construire une maison pour un enseignant, actuellement, c'est difficile. On doit faire les ristournes pour qu'on construise la maison, pour que les autres paient d'autres pour leurs femmes. Et seulement ça.
Et aujourd'hui, après 52 ans de service rendu à la nation, quel conseil aussi donneriez-vous à certains jeunes, hein, jeunes qui ne veulent pas plutôt embrasser ce métier de l'enseignement, quel que soit ce que devient l'enseignement,
il faut que nos enfants se donnent l'enseignement. Parce que, comme moi ici, j'ai tenu 1990 à 2000 ans à Moutimaria, j'étais à 6e. J'ai formé beaucoup d'enfants là-bas, en 6e. Donc, il faut que les enfants restent endurcis, qu'ils mettent ça dans la tête. Même plus tard, l'enseignement aura sa place qui était dans le temps.
Nous disons merci, Madame Félix.
Merci aussi à vous.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Jean-Claude Nsiala, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinge et Jude Bilandankoumar. Patience Ngalou Lambombo à la présentation. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres.